Aujourd'hui dans Déclic, on vous parle d'un documentaire. Il s'intitule « Une jeunesse italienne » réalisé par Mathieu Volpé. Un film documentaire qui suit le parcours de Socorro, fils d'immigré burkinabé installé en Italie, qui se marie avec Narissa, une jeune fille de son village natal. On va les suivre dans ce mariage à distance entre le Burkina et l'Italie. Et pour vous mettre dans l'ambiance, extrait de la bande-annonce.
Donc,
Sei disponibile a qualunque tipo di lavoro?
Sì, sono disponibile.
Une jeunesse italienne, et pour en parler avec nous, donc, le réalisateur Mathieu Volpé. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Avant de décrypter votre film docu, on va faire connaissance avec vous. C'est votre premier long métrage, mais ce n'est pas une première derrière la caméra.
Non, voilà. Donc moi, je suis sorti de l'IAD en 2014 avec un master documentaire. Donc j'ai fait quelques courts métrages. Enfin, j'ai fait mes preuves là-dedans. Et donc c'est vrai qu'il y a une continuité dans tous mes travaux depuis la sortie d'école, parce que par exemple le dernier se passait dans un bidonville dans le sud de l'Italie. Enfin, c'est là d'où je viens. Et c'était un endroit où il y avait des travailleurs immigrés qui faisaient la cueillette des tomates. Et parmi ces travailleurs, il y avait la famille de Socorro, donc qui est le personnage principal du documentaire qu'on a suivi pendant 4 ans.
C'est comme ça qu'est né le projet Jeunesse Italienne ?
Oui, donc c'est ça. C'est vraiment né comme une histoire d'amitié, parce que donc j'ai rencontré Socorro, donc c'était en 2015. Puis on est restés amis, on était fort en contact. Lui, il habitait dans le nord de l'Italie avec toute sa famille. Et donc comme ça, il y avait des étés où j'allais chez lui en vacances. Et en été 2018, il m'a dit un peu en dernière minute, écoute, il faudrait que tu viennes avec moi au Burkina parce que je vais me marier avec une fille de là-bas. Et donc j'aimerais bien quelqu'un pour faire mon film de mariage.
Et film de mariage qui s'est transformé en film docu.
Voilà, film de mariage qui s'est transformé en film documentaire qui a pris 4 ans. Bon, il y a eu le Covid au milieu, donc ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. Mais donc c'était le début d'une grande aventure humaine où j'ai appris comment on fait un film sur une longue durée, en fait.
Ouais, parce que c'est vraiment une immersion dans une famille, hein, dans la tradition des familles burkinabées, dans les villages traditionnels, mais aussi dans les familles italiennes, en tout cas immigrées italiennes. Comment ça s'est passé ?
Alors moi je dirais que c'est assez, ce qui m'a marqué quand j'allais chez Socorro, c'était de voir à quel point c'était une bulle d'immigrés burkinabés qui n'avaient pas vraiment beaucoup de contact avec le monde extérieur, parce que voilà, quand les parents de Socorro sont arrivés il y a une trentaine d'années, je pense, en Italie, mais en fait il n'y avait pas vraiment d'accueil, il n'y avait pas vraiment d'ouverture de la part de la société pour ce type de personnes en migration. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, je suis la seule personne blanche de leur entourage. En tout cas, les milieux ne se mélangent pas beaucoup. Mais donc, je dirais que cette amitié qu'on avait avec Socorro avant de commencer le tournage a vraiment permis qu'on aille plus loin aussi dans la narration, donc d'être au plus proche de l'intime. Et donc, c'est ça qui a permis aussi de brouiller un peu les frontières entre la fiction le documentaire.
Mmh. Parce que vous parlez justement de la narration, elle était claire dès le départ, quand vous commencez cette immersion, finalement, vous saviez où vous alliez aller ?
Moi, je dirais pas du tout, parce que à la base, ça devait être un film beaucoup plus ample, en fait, parce que la famille Socorro est très grande, donc on voulait parler un peu de chaque membre de la famille. Mais c'est vrai que en écrivant, en passant par beaucoup de phases d'écriture, on s'est dit que c'était bien de partir de ce mariage et en fait d'utiliser ce fil rouge du couple pour soutenir la narration, parce que au travers de ce mariage là on pouvait vraiment parler de toute cette problématique des relations nord-sud, qui sont extrêmement complexes en ce moment, tout en donnant une impression, une facette qui n'est pas vraiment celle qui est très médiatisée, par exemple des personnes qui traversent la Méditerranée, mais vraiment on avait envie de parler de ceux qui sont déjà en Italie et qui essaient de se construire comme ça.
Oui, et pour nos auditeurs, pour bien remettre en contexte, Socorro se marie avec Narissa, Socorro vit en Italie, Narissa vit au Burkina, et il lui envoie de l'argent d'Italie. Le but pour Socorro, ce serait de venir En tout cas, il est tiraillé entre le retour au Burkina et de rester en Italie. Et donc, il envoie de l'argent à sa femme au Burkina.
Oui, c'est vraiment le lien entre les deux, c'est cette thématique de l'argent. Parce qu'effectivement, Socorro est arrivé en Europe aussi avec le poids de cette responsabilité de se faire survivre toute la communauté qui est autour de lui, donc qui a aussi financé le voyage des parents vers l'Europe. Et donc, en fait, lui se retrouve avec cet énorme poids sur les épaules parce que voilà, la société africaine est beaucoup moins individualiste que la société occidentale. Et donc, lui n'est pas juste une personne qui arrive en Europe, mais aussi une communauté, quoi. Donc il est la pierre angulaire de toute cette économie, et c'est ça que le film raconte aussi, c'est sa difficulté à être à la fois les pieds en Italie, mais aussi la tête tournée vers son pays d'origine.
Oui, littéralement entre quitter ses terres natales et un peu aussi ce pseudo Eldorado européen qu'il a dans sa tête, sans doute.
Moi, je dirais aussi que quand on a commencé à sentir qu'il y avait un film au-delà du film de mariage, c'était ce moment où on a senti qu'il y avait un conflit dans les enjeux de chaque personnage, enfin, chaque protagoniste, en fait. Et donc, voilà, pour la femme de Socorro, c'était très important d'arriver dans cet Eldorado rêvé, et pour Socorro, en fait, c'était ce mariage était la première pierre d'un retour au Burkina. Et donc, c'est vrai que pendant ces 4 ans, on a vraiment vu à quel point ces enjeux s'entrechoquaient et à quel point Socorro était pris dans plein de difficultés, parce qu'au final, il a quand même dû essayer de lancer des procédures de regroupement familial, donc qui l'éloigne de son rêve d'origine. Donc voilà, après, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais donc il y a aussi ce fil rouge-là qui est celui de ce conflit entre différents enjeux.
Ouais. On parle d'un film documentaire, hein, c'est important, parce qu'il y a certaines séquences que vous avez remis en scène, si l'on veut, des séquences, donc des scènes de vie réelle que vous avez dû reproduire. Hein.
Oui, on a travaillé vraiment de façon très horizontale avec tout le monde. Donc c'était, voilà, il n'y avait pas de hiérarchie. En fait, on discutait, enfin, on passait beaucoup de temps dans la famille de Socorro, et donc on assistait à des moments du quotidien. Et donc en fait, pour ne pas être pendant 4 ans avec une caméra braquée 24 heures sur 24 sur chacun, chacune, donc on demandait tout simplement, est-ce qu'on peut remettre ça en scène? Est-ce qu'on peut imaginer cette situation qui se rapproche finalement de ce que vous avez vécu? Donc moi, je dirais qu'en fait, tout est vrai, mais ça s'est peut-être pas passé au moment où on l'a tourné. Donc il y a eu une scénarisation qui s'est faite en collaboration avec Socorro et sa femme, et c'est là où pour moi ça a été merveilleux, parce que on pouvait vraiment discuter de quel était le sens du film, des séquences qu'on tournait, et donc il y a eu voilà un rapport assez transparent sur ce que le film voulait raconter, et au final chacun chacune a mis ce qu'il voulait mettre dans le film. Donc c'est, enfin, moi je dirais que moi j'étais plutôt un médium pour faire en sorte que le, enfin voilà, ce que Socorro et sa femme voulaient raconter soit vu, entendu.
Oui. Voilà. Et parfois, moi, ça m'a fait penser à des scènes de théâtre, parce que on voit que ce sont des scènes qui ont été un peu reconstituées, entre guillemets, et les personnages ne se regardent pas. Alors, et donc, c'est très déstabilisant, mais à la fois, on s'habitue complètement à ce parcours dans le film.
Alors, en fait, c'est vrai que, par exemple, quand on montrait le film, en fait, souvent, des personnes blanches nous disaient, mais en fait, c'est assez, voilà, c'est un cadre assez théâtral, en fait, ils ne se regardent pas. Mais en fait, finalement, c'est assez culturel, parce que par exemple, ce qui m'avait frappé dans la famille de Socorro les premières fois où j'allais chez lui, c'est que dans les moments importants, en fait, on ne se regarde pas vraiment dans les yeux. Et donc, voilà, pour moi, c'était aussi une façon,
montrer la réalité.
Voilà, de montrer la réalité, mais aussi politique, de dire aux gens, voilà, exprimez-vous comme vous savez le faire, comme vous voulez le faire. Et donc, voilà, on ne les a pas spécialement obligés à se regarder dans les yeux, parce que c'est vrai que, voilà, il y a une sorte de pudeur. Enfin, je trouve aussi le fait qu'ils ne se regardent pas dans les yeux raconte aussi parfois une sorte de hiérarchie, parce que parfois Socorro ne regarde jamais sa mère dans les yeux quand il engueule ou quand il lui fait un sermon. Donc en fait, c'est vrai que voilà, c'était très particulier, mais on a essayé de retranscrire ça aussi. Voilà, après, je ne vais pas faire des généralités, c'est peut-être quelque chose qui était que dans cette famille-là, mais en tout cas, voilà, ça nous paraissait juste de raconter ça comme ça.
Le titre est important aussi, hein. Une jeunesse italienne, peut-être même déroutant pour certains. Finalement, on s'attend à voir quelque chose et on part sur complètement autre chose.
Alors, toujours par rapport à cette dimension politique, pour moi, C'est un titre qui, enfin, donc quand on écoute, enfin quand on entend Une jeunesse italienne, c'est vrai qu'on s'attend à des images de personnes blanches en Italie, peut-être à la plage, voilà, qui profitent de la vie. Et donc en fait, le fait qu'il y a un décalage entre ce titre-là et voilà des personnes noires qui sont au cœur du récit, pour moi, racontait, enfin un peu ce que, enfin voilà, toutes ces dimensions politiques-là, de dire en fait, Socorro est tout aussi italien que quelqu'un d'autre, enfin qui habite en Italie depuis, enfin parce que Socorro habite en Italie depuis, je pense, plus que 15 ans. Donc, il est tout aussi italien que des personnes blanches qui sont là depuis plus longtemps. Parce qu'il participe à l'économie, parce qu'il vit, il vit dans une galère par rapport à ses boulots très précaires que finalement les Italiens ne veulent plus faire. Mm-hmm. Et donc, voilà, pour moi, ce titre-là était. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du titre, mais finalement, il me paraissait juste par rapport à ce que le film raconte.
Mm-hmm. Oui, il y a une vraie dimension politique dans ce film documentaire super intéressante. Est-ce que l'on peut savoir ce qu'ils deviennent, Socorro et Narissa? Non, sinon on dévoile un peu trop.
Oui, après disons que, enfin, ce que je peux dire sans trop dévoiler la fin, je crois qu'on a arrêté le processus de tournage quand on a senti que la situation n'allait pas vraiment évoluer. Donc en fait, on s'est dit là, à mon avis, on est parti plutôt pour quelques années où il se passera plus grand chose. Donc voilà.
Peut-être dans quelques années pour aller les suivre à nouveau, voir ce qu'ils sont devenus.
Oui, mais en fait, il y a déjà un projet avec la femme de Socorro, après je vais vraiment dévoiler la fin du film, mais donc c'est vrai que on est encore en contact. Par exemple, j'étais au village il y a un an, justement pour les prémices d'un nouveau projet, donc j'ai pu montrer le film à la femme de Socorro et aux gamins du village, donc voilà, c'était un très beau moment qui clôturait en quelque sorte le
Qu'est-ce
tournage.
Qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Alors, moi, je dirais que c'était surtout très frappant de voir les enfants, à quel point ils étaient, ils ont demandé 10 et 15 fois de revoir le film. Donc, moi, à un moment donné, j'étais là, mais c'est pas un blockbuster. Mais c'est vrai que pour eux, c'était très marquant de voir des images de Socorro au travail. En fait, ils étaient très surpris de voir quel était le travail de Socorro. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi dur. Et voilà, on a eu plein de remarques là-dessus par rapport justement au fait que, ils s'attendaient pas à ce que ce soit si compliqué.
Mmh. Merci beaucoup, Mathieu Volpe, d'avoir été avec nous dans Déclic. Votre film, il sort en salle. Ce soir, une séance au Grignoux à Namur. Je suppose que l'accueil est quand même plutôt bon. Vous êtes content?
Je suis très content, surtout de pouvoir le montrer en salle, parce que faire un film documentaire, c'est un parcours de combattant. Après, il faut essayer de convaincre des exploitants à le montrer. Et là, on a eu vraiment de la chance de tomber sur des personnes qui étaient hyper à l'écoute, comme le programmateur de l'aventure à Bruxelles, des Grignoux, donc Nicolas et Olivier, et puis pour les Grignoux à Namur.